L'Atelier des médias.
Salut, ici Ziad Malouf de l'Atelier des médias. La semaine dernière, nous avons commencé une série consacrée au phénomène du conspirationnisme. Vous avez été nombreuses, nombreux à partager, commenter, aimer le portrait de Ronan Chérel, ce professeur d'histoire-géographie qui a décidé de combattre les théories du complot en renforçant l'esprit critique et la culture médiatique de ses élèves. Vous pouvez réentendre, découvrir ce sujet grâce à notre podcast ou en version longue sur l'Atelier des médias. Nous continuons cette semaine l'exploration de l'univers complotiste, celui où beaucoup croient que le monde est fait de ficelles qu'il suffit de tirer pour agir dans un sens ou dans un autre. Je passe le micro à Mélissa Barra qui signe le reportage à suivre, portrait en clair-obscur de la complosphère française.
Prenez un instant pour vous poser les questions suivantes. Dans les jours qui ont suivi les attentats de Paris, ceux de Beyrouth ou l'attaque contre l'hôtel Radisson à Bamako, où êtes-vous allé chercher les réponses à vos questions? Quelles informations avez-vous consultées? Est-ce qu'elles vous ont semblé satisfaisantes ou au contraire, ces informations ont-elles suscité en vous encore d'autres questions, voire des doutes? Avez-vous visionné des vidéos ou lu des tweets évoquant l'étrange coïncidence des faits? Êtes-vous tombé sur un article soulignant que certaines personnes pourraient profiter secrètement des événements? En somme, avez-vous franchi la frontière des théories du complot? La vérité est ailleurs, disent les conspirationnistes. Ailleurs que dans les médias qui nous informent au quotidien, ailleurs que dans les propos de nos historiens, ailleurs que dans la réalité visible. Les attentats, les assassinats politiques, les affaires non résolues et les tragédies de l'histoire voient s'élever dans leur sillage des voix discordantes, souvent virulentes, cherchant à dénoncer une machination orchestrée. Par qui ? Par des forces obscures et omnipotentes, aux visages multiples et vagues. Notre mission, disent les complotistes, consiste à réveiller les foules et à secouer les citoyens pour leur montrer qu'ils sont manipulés. J'ai voulu comprendre ce phénomène profondément lié à l'information et à l'Internet. J'ai voulu comprendre comment les théories du complot avaient émergé, quels étaient leurs rouages et leurs défenseurs en ligne, et aussi quelle était la relation des médias traditionnels avec ce qu'on appelle la complosphère.
Et n'ayant jamais eu affaire aux conspirations et aux récits complotistes à part dans les romans d'aventure, Mélissa, tu as tout d'abord recherché une définition précise du phénomène. Pour cela, tu t'es adressée à Rudi Reichstadt.
Ce jeune fonctionnaire connaît très bien le phénomène puisqu'il a créé en 2007 un site appelé Conspiracy Watch, qu'il décrit comme un observatoire du conspirationnisme et des théories du complot.
C'est-à-dire un site consacré à l'approche critique des théories du complot, du conspirationnisme, qui a pour but à la fois de déconstruire les théories du complot et de montrer aussi leur généalogie, la manière dont elles apparaissent, et puis les protagonistes qui alimentent ces différentes théories. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la croyance dans des complots imaginaires, qui, à tout le moins, ne sont pas prouvés, ne sont pas démontrés.
Qu'est-ce qu'un complot, déjà ?
Un complot, c'est l'action concertée d'un petit groupe d'individus secrètes, plutôt pour des fins pas très avouables. A priori, lorsqu'on parle de complot, de machination, il y a quand même l'idée que c'est pas pour le bien public, quoi. Il y a quelque chose de maléfique là-dedans, de l'ordre de ce que Léon Poliakov appelait la causalité diabolique. On recherche derrière ce qui se passe, ce qui arrive, des événements choquants, historiques, marquants. On cherche la main invisible de puissance obscure et de puissance maléfique. Donc un complot, c'est ça. C'est l'action concertée d'un petit groupe d'individus en vue de tirer profit d'une situation et en tout cas de la maintenir secrète.
Et en ce sens, comment définissez-vous les théories du complot et le conspirationnisme, si ce sont deux choses différentes?
Non, si vous voulez, une théorie du complot, c'est un récit concurrent de la version communément acceptée des faits qui place en son cœur l'idée d'une conspiration et d'une conspiration qui se double d'une conspiration du silence. Si vous voulez, pour vous donner un exemple, le 11 septembre, non seulement le 11 septembre était un complot criminel de l'administration américaine, puisque c'est ce que disent les complotistes, qui essaient de faire porter le chapeau à des islamistes, mais en plus, ce complot-là, ce complot criminel, terroriste, il se double d'une conspiration du silence, c'est-à-dire que des centaines, voire des milliers de personnes, aux États-Unis et sans doute ailleurs, sont au courant, mais œuvrent activement pour que la vérité ne sorte pas, pour pérenniser le mensonge.
Est-ce la même définition pour le conspirationnisme ?
Oui, le conspirationnisme, si vous voulez, c'est le, pour moi, hein, c'est le mode de discours qui donne sa structure à toute théorie du complot. Voilà. Donc, et c'est un mode de discours qui est très voisin, dans sa structure en tout cas, du négationnisme. C'est-à-dire qu'au cœur du négationnisme, il y a déjà l'idée d'une conspiration, une conspiration du silence, avec l'idée que les faits ne sont pas les faits, quoi. Dans le conspirationnisme, on retrouve le même type de raisonnement, c'est-à-dire l'inversion de la charge de la preuve. Prouvez-moi que ce que je dis est faux. À qui profite le crime ? Évidemment, on va induire des coupables par rapport d'ailleurs à des raisonnements un peu tordus. D'ailleurs, quoi, le 11 septembre a-t-il finalement profité aux Américains ? Enfin voilà, il y a quand même 3000 citoyens américains qui en sont morts. Et puis, la question de l'infalsifiabilité. Ça, c'est Karl Popper, qui est un penseur américain, qui a parlé dès les années 40 hein, de théorie du complot, de théorie sociologique du complot. Et l'infalsifiabilité, c'est, vous savez, pour qu'une théorie tienne, il faut pouvoir la reproduire. Ou la, voilà. Et la théorie du complot, eh bien, c'est le contraire. C'est-à-dire que dans la théorie du complot, la meilleure preuve de l'existence du complot, c'est qu'on ne peut pas le prouver. C'est que le complot est tellement puissant que de toute façon, on n'arrivera jamais à le prouver. Donc l'incapacité à prouver définitivement la conspiration se retourne en preuve de la conspiration.
En faisant des recherches, j'ai appris que le récit complotiste avait une longue histoire. D'abord, les vrais complots ont toujours existé. Je pense par exemple à l'assassinat de Jules César par un groupe de sénateurs romains dans le but, dit-on, de restaurer la République.
Il y en a eu des milliers d'autres avant celui-ci, des complots et bien entendu après.
S'agissant des théories du complot, les fausses, celles que l'on qualifie de complotistes ou de conspirationnistes, elles sont apparues dans leur forme moderne en France à la fin du XVIIIe siècle. Elle consistait à dénoncer de manière virulente les ennemis de la Révolution ou de la chrétienté. Ces ennemis pouvaient être des sociétés secrètes, des nations étrangères ou des clubs politiques. À partir du XIXe siècle, les juifs et les francs-maçons ont commencé à être les cibles privilégiées de la littérature conspirationniste. Le texte le plus connu de cette littérature est intitulé « Les protocoles des sages de Sion ». Ce document antisémite décrit un plan de conquête mondiale formulé lors d'une réunion imaginaire entre juifs et francs-maçons dans un cimetière de nuit.
Les protocoles, c'est vraiment un faux. Et on sait que c'est un faux, on le sait depuis 1921 exactement, parce qu'on s'est aperçu que c'était un plagiat pour l'essentiel d'un libelle anti-bonapartiste qui était publié dans les années 1860, qui s'appelait « Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu ». Voilà. Et c'est vraiment la copie, c'est vraiment le plagiat de ce texte-là.
Qui était une fiction à la base.
Qui était une fiction, mais qui était un brûlot politique contre Napoléon III, en fait. Et Mathieu Golovinsky, qui est donc le rédacteur hein, des protocoles, à Paris, premières années du XXe siècle, 1901-1903, reprend ce matériel-là et le met à la sauce complot juif. En reprenant d'ailleurs des éléments qui préexistaient dans la littérature antisémite de la deuxième moitié du XIXe siècle. Il n'a pas eu beaucoup de mal à les trouver, puisqu'il suffisait de se baisser déjà à l'époque pour trouver ça. Et puis c'est un texte qui n'a pas eu immédiatement beaucoup de succès, mais qui a été diffusé d'abord en Russie et qui est revenu ensuite en Europe occidentale au moment de la Première Guerre mondiale et notamment avec les Russes blancs, lorsque les Russes blancs sont venus en exil en France et ailleurs, puisque c'était la révolution bolchevique de 17 a été vue comme la réalisation des protocoles, en fait. C'est-à-dire un complot bolchevique, les bolcheviques étant réputés juifs pour la plupart, ce qui n'est pas complètement faux d'ailleurs, les juifs étaient surreprésentés chez les bolcheviques, mais évidemment ça a été, si vous voulez, la réalité a presque comme donné raison rétrospectivement à ce texte-là. Mais c'est un faux, on sait que c'est un faux depuis 1921, et on sait le démontrer donc, et pour autant il a eu un succès international, mondial, il a été diffusé à une échelle absolument colossal, et encore aujourd'hui il est diffusé. Il a été diffusé dans le monde arabe, en particulier après la création de l'État d'Israël. Il a été diffusé, y compris, enfin, sur tous les continents, mais si vous voulez, pour vous donner une idée, on conseillait encore la lecture des protocoles des sages de Sion sur une radio d'État vénézuélienne il y a quelques années. Et parmi les commentateurs des protocoles, les commentateurs antisémites des protocoles, qui sont les plus sophistiqués, ils vous expliquent que sans doute c'est effectivement un faux, mais que ce que décrivent les protocoles se sont quand même largement réalisés, et que donc c'est ça qui importe, quoi.
Les protocoles des sages de Sion ont servi de base pour une multitude de textes qui ont ponctué l'histoire du conspirationnisme moderne. Malgré les preuves de sa fausseté, le texte a quand même nourri la vision antisémite d'une mainmise financière et morale absolue des juifs sur les sociétés européennes. Les protocoles ont d'ailleurs été repris par Adolf Hitler dans Mein Kampf lors de sa rédaction entre 1924 et 1925.
De manière générale, les récits du complot ont par la suite été alimentés par les grands événements de l'histoire comme l'assassinat de John Kennedy en 1963 ou les attentats du 11 septembre en 2001. Au XXIe siècle, la diffusion de la pensée conspirationniste s'est bien entendu élargie grâce aux modes de communication modernes et particulièrement l'Internet. Les discours complotistes ont trouvé dans le web un terrain idéal.
Il y a sur Internet une mouvance structurée, la complosphère, c'est-à-dire une myriade de blogs et de sites dont l'activité principale, primordiale, est vraiment d'interpréter l'actualité, et pas seulement l'actualité, l'histoire également, à l'aune du complot, à l'aune de la théorie du complot. Et donc on va être à la fois dans la réinterprétation en temps réel de l'actualité. Ne croyez pas ce qu'on vous dit, on nous cache tout, on ne nous dit rien, etc. La vérité n'est pas ce que vous croyez. Et puis, on va être également dans la rétrologie complotiste. C'est-à-dire que non seulement ce qu'on vous dit aujourd'hui est faux, mais en plus on vous ment depuis beaucoup plus longtemps que vous ne le pensez. Et vous prenez chez les conspirationnistes du 11 septembre, par exemple, on vous dit que Pearl Harbor, l'attaque de Pearl Harbor du 7 décembre 1941, était aussi un complot. C'est-à-dire qu'en réalité, les Américains savaient, et ils n'ont rien fait pour avoir un prétexte pour entrer en guerre, ce qui est ce avec quoi les historiens, les spécialistes du sujet ne sont pas d'accord, mais ils défendent cette thèse-là, c'est-à-dire qu'ils réinterprètent également l'histoire à l'aune toujours du mensonge et de la conspiration.
Nous savons depuis très longtemps déjà que la pratique des attentats sous faux drapeau à des fins de manipulation des masses existe. Depuis que nous savons que Pearl Harbor était plus ou moins une provocation volontaire, que le 11 septembre était prémédité, que l'affaire Mirassant le traquenard à plein nez.
Clairement, l'Internet est une phase dans cette longue histoire du conspirationnisme qui est peut-être plusieurs fois centenaire, voire peut-être millénaire, plusieurs fois millénaire.
Lui, c'est Tristan Mendès-France. Ce blogueur et twitto de longue date s'intéresse depuis 2004 aux théories du complot en ligne. Il a beaucoup échangé, principalement sur des forums, avec des tenants de la conspiration. Tristan Mendès-France est aussi formateur au CELSA, une école de journalisme à Paris.
L'Internet et le web en particulier a, je pense, profondément changé la circulation, ce délire conspirationniste, comme ça que moi je le qualifie, a donné une audience particulière, une seconde vie probablement au conspirationnisme, encore une fois qui préexistait. Il n'y a pas de doute que le conspirationnisme préexistait à l'Internet et au web. Mais le web a permis, je pense, alors c'est des hypothèses, mais je pense qu'il y a plusieurs hypothèses qui expliquent un profond changement, une profonde mutation du discours conspirationniste aujourd'hui. Probablement peut-être quelque chose qui a à voir avec la marginalisation du discours. Avant Internet, si vous teniez un propos conspirationniste complètement délirant le dimanche à table en famille ou avec vos amis, vous étiez un peu pointé du doigt, les gens vous vannaient et puis à la fin des fins, vous reveniez un peu dans le droit chemin au bout d'un certain temps parce que vous étiez tout seul dans votre coin. L'Internet a permis donc à ces individualités, au discours marginal, de retrouver d'autres marginaux comme eux. Et les marginaux entre eux se renforcent, se réconfortent et leur donnent une sensation de ne pas être aussi marginal que ça. Et ne pas être un fou dans son coin, mais d'être une véritable communauté d'individus. Et ça renforce, je pense, énormément les discours, les postures. Et ça participe, je pense, en tout cas en grande partie à la solidification, disons, de ce discours dans nos sociétés aujourd'hui.
En quoi Internet favorise une sorte de recyclage du discours conspirationniste ?
Je dirais que ce qu'il y a de particulier avec l'Internet et le discours conspirationniste, c'est que des gens de bonne foi peuvent tomber dedans. Et ça, du fait de la nature même de ce qu'est le web aujourd'hui. Quelqu'un qui aurait une moindre intuition, un moindre questionnement sur quelque événement que ce soit, sur le 11 septembre par exemple, on peut se poser des questions. Tout le monde a le droit de se poser des questions. Sauf que si on n'est pas familier de ce qu'est le web, on peut aller donc sur Google, taper le 11 septembre, et très vite, on va trouver de nombreux sites qui vont vous mettre devant les yeux un argumentaire très fourni qui va dans le sens du complot, du conspirationnisme. Et plus vous allez tirer le fil de ce premier questionnement sur ce qu'il a pu véritablement se passer au-delà de ce qu'on nous raconte sur le 11 septembre, en tirant le fil, eh bien vous allez, et c'est le propre du net, qui est hyperlien et qui est infini. Hein, quand on tire le fil d'une page, eh bien on tombe sur une autre page, qui vous redonne sur une autre page, qui envoie sur une autre page, de façon assez indéfinie. Et très vite, quelqu'un de bonne foi peut être inondé hein, de supposés faits qui peuvent véritablement lui donner l'impression qu'il y a anguille sous roche. Et le cerveau est quand même assez simplement fait que si vous arrivez à recevoir une dizaine d'informations, s'il y en a neuf qui vous disent que le 11 septembre c'est pas Al-Qaïda, bah, au bout d'un certain moment vous risquez de flancher. Et je crois qu'il y a un côté un peu circulaire là-dedans où on se prend sans le savoir au jeu de des questions qu'on va poser. Hein. Internet ne fait rien d'autre que vous renvoyer ce que vous êtes allé y chercher. Si vous n'allez pas chercher des éléments qui vont contrecarrer vos intuitions, vos impressions, vous ne serez jamais exposé à autre chose que des éléments qui vont dans le sens de ce que vous croyez déjà.
L'Atelier des médias, une web émission participative pour la communauté des nouveaux médias.
Y a-t-il une hiérarchisation ou à l'inverse, tout se vaut en termes d'informations sur Internet ?
Encore une fois, c'est le propre et c'est le génie hein, de cet outil, hein, de ne pas niveler l'information en fonction de l'autorité qui est derrière. Sur Internet, tout se vaut. Une page web vaut une page web. Une page web du Collège de France, d'un média institutionnel ou un blog d'un mec lambda, c'est exactement la même chose. La nature est la même. La seule chose qui change en fonction de ces différentes pages, c'est l'ordre que le robot Google va donner à la présentation de ces pages lorsque on cherche telle ou telle information. Mais Google, évidemment, ne vous donne jamais les réponses vraies ou fausses. Il vous donne celles qui sont populaires, celles qui sont les plus référencées, tout simplement.
Ces pages, cette information, ce contenu conspirationniste, comment il se présente ? Est-ce qu'il y a un schéma narratif ou technique qui revient systématiquement ?
Alors, ce que je peux dire, c'est qu'il y a quand même un propre à la majorité des sites, forums conspirationnistes, c'est le fouillis de données, de data sous lesquels ils cherchent à vous noyer. Il y a rarement des choses succinctes, il y a rarement de biais synthétiques. Quand on commence à chercher dans ces forums ou dans ces sites, c'est des tartines de pages, des dizaines, voire des centaines de pages. Les vidéos, c'est rarement une vidéo de 2-3 minutes synthétique avec des points essentiels. C'est des tonneaux de vidéos qui durent des heures et des heures. Donc c'est un peu comme s'ils cherchaient un peu à pallier ce qui me semble être l'évidence du délire de leurs propos avec une masse de données en vous disant, voilà, on vous livre tout ça en vrac, on a des milliards de données, c'est la preuve qu'on n'est pas des mythomanes. Sinon, on n'aurait pas autant de data à vous fournir sur les différents délires qu'on porte.
Et à votre avis, ces données, cette data, d'où vient-elle ?
Alors, il y a beaucoup de données qui sont présentées par les conspirationnistes, sont très difficilement d'ailleurs contrecarrables. Pour contrecarrer ces informations, il faudrait passer une vie. En gros, vous allez sur n'importe quel site conspirationniste, il y a tant de données que, à supposer qu'il y en ait certaines qui soient vraies, et peut-être qu'il y en a, il n'y a pas de souci, le temps qu'il faudrait pour passer, pour essayer de vérifier chacune des informations, il faudrait une vie. Ils le savent, et c'est justement ce trop-plein d'informations qui fait qu'ils sont quasiment inattaquables. Mais il y a, je veux dire, pire que ça, c'est que eux ne vous diront quasiment jamais, c'est dans leur rhétorique, ça, c'est un des jeux rhétoriques, ils ne vous diront jamais que ce qui est présent sur leur site est vrai. Ils vous demanderont à vous de prouver que c'est faux. Ils vous disent non, on ne dit rien. Mais par contre, ils vous inversent le discours en disant « Écoutez, c'est vous qui croyez qu'on est allé sur la Lune. Si vous croyez vraiment qu'on est allé sur la Lune, prouvez-le. Nous, on a des éléments qui montrent que vraisemblablement, on n'y est peut-être pas allé. Nous, on dit rien. Maintenant, toutes les informations qu'on a là-dessus, si vous pensez que les informations qu'on partage sont fausses, c'est à vous de prouver qu'elles sont fausses. » Donc évidemment, à ce jeu-là, on est quasiment toujours perdant.
Complot semble compromis. Compromis. Mon complot semble compromis.
Contredit. Ce qui suit jusqu'ici n'a jamais été contredit.
Lorsque vous croyez à une théorie du complot, vous avez plus de chances de croire à une deuxième théorie du complot. C'est-à-dire qu'il y a quand même une vision du monde derrière, il y a une mentalité complotiste qui fait que vous savez comment ça commence, vous ne savez pas comment ça finit.
Qui sont ces personnes qui surfent sur la vérité et la fausseté des informations sur Internet? Comment se diffusent les théories du complot et comment s'en prévenir? Des éléments de réponse à suivre dans un instant.
Atelier des médias, nous poursuivons cette semaine notre enquête sur le complotisme, le conspirationnisme, grâce à un reportage signé Mélissa Barra.
L'atelier des médias, la web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon De Creuse.
Et vous.
Lorsque vous représentez les choses, la démocratie par exemple, comme un théâtre d'ombre ou s'époumonne comme ça des marionnettes qui sont manipulées par des forces obscures qui agissent en coulisses, eh bien ça veut dire que notre vie politique est complètement corrompue, que la démocratie ça sert à rien, et vous ne pouvez pas ne pas vous poser la question de la validité du système qui produit ça et qui conduit à ça. Rudi Reichstadt, j'ai 34 ans, j'administre le site Conspiracy Watch. Et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, il y a une corrélation qui a été mise en évidence d'ailleurs par la recherche sociologique. Une corrélation entre la radicalité politique et le conspirationnisme. C'est très clair. C'est-à-dire que c'est un mal qui touche en particulier les franges les plus extrémistes du spectre politique, extrême droite, extrême gauche également.
Dans l'univers de la conspiration française, un nom revient souvent sur le web, celui d'un certain Alain Soral. Sa chaîne Dailymotion, qui se nomme ERTV pour Égalité et Réconciliation TV, totalise 37 millions de vues. Le site d'Alain Soral, égalité-réconciliation.fr, comptabilise lui près de 4 millions de visites par mois selon le site de mesure d'audience SimilarWeb.
Il y a des films entiers sur la mafia italienne. Les Italiens ne font pas de procès en disant qu'on injurie les Italiens. Mais par contre, il y a une mafia juive. Et il faut bien le rappeler, c'est la mafia la plus puissante du monde. Elle règne sur des tas de choses. Et les films hollywoodiens qui montrent systématiquement la mafia italo-sicilienne, c'est pour cacher que la plus grande des mafias est juive. Hein.
Alors Alain Soral, c'est un homme politique, un polémiste, dit-on souvent, d'extrême droite, qui a fait sa notoriété sur Internet à coup de vidéos cash où il dénonce les juifs, les homosexuels, qui seraient responsables d'à peu près tous les maux de notre société. Je suis Mathieu Mollard, rédacteur en chef du site d'info Street Press, et je viens de publier avec Robin D'Angelo le système Soral, enquête sur un facho business chez Kahneman Levy. Chez Alain Soral, le conspirationnisme, c'est un peu ce qui permet de faire tenir tout son raisonnement. Parce que Alain Soral, c'est quelqu'un qui fait une lecture de la société qui est plutôt de gauche, qui est plutôt marxiste ou ouvriériste, et qui en tire des conclusions d'extrême droite. Et pour ça, il désigne des boucs émissaires. Donc ça va être les juifs, ça va être les féministes, ça va être les homosexuels. Et pour rendre responsables tous ces gens-là de tous les maux de notre société, c'est-à-dire le chômage, la violence, la pauvreté, eh ben, il fait appel à des théories du complot, à la conspiration, en permanence. Par exemple, les problèmes économiques de notre société, c'est lié au système financier, donc analyse de gauche, marxiste, sauf que derrière le système financier, qui se cache, ce sont les juifs et le complot juif mondial. Donc on est dans un exemple très précis d'une conspiration qui aboutit à la paupérisation des Français. Il désigne des boucs émissaires, c'est effectivement souvent les juifs, mais c'est aussi les francs-maçons. Le fait que cette organisation cultive le secret facilite, on peut lui attribuer à peu près tout et n'importe quoi, puisque rien n'est public. Donc il suffit de leur accorder tous les pouvoirs, plein de réunions secrètes où ils pourraient décider de ce qui se passe dans notre monde. Alors il y a les francs-maçons, mais il y a aussi le Bilderberg, il y a aussi...
Bilderberg qui est ?
Le Bilderberg, c'est un rendez-vous annuel des puissants de ce monde qui existe vraiment. Chaque année se réunissent, je ne sais plus combien, une centaine peut-être de dirigeants de notre monde. Alors ça va être des hommes d'affaires, ça va être des hommes politiques. Ce rendez-vous existe réellement. Mais là où on tombe dans le conspirationnisme, c'est quand on lui attribue des pouvoirs occultes importants. Il se voit une fois par an, il ne décide pas de l'avenir de notre monde en 2 heures un après-midi. Donc ça, c'est complètement faux. Mais comme ils ont beaucoup de pouvoir et beaucoup d'influence, qui est réelle, puisque individuellement, tous les participants sont des gens très importants, eh ben, on peut leur accorder beaucoup d'influence sur notre société.
Et d'où lui vient ce bagage idéologique ?
Moi, je dirais plutôt ce qui est intéressant, c'est pourquoi il utilise le conspirationnisme de manière globale. C'est d'abord pour faire tenir son idéologie, mais aussi parce que c'est Marc Georges. Marc Georges, c'est le cofondateur du mouvement Égalité et Réconciliation, donc le mouvement politique d'Alain Soral. Ensemble, ils ont fondé Égalité et Réconciliation. Nous, on l'a rencontré dans le cadre de notre enquête, et il nous expliquait que un conspirationniste, c'est quelqu'un qui remettait en question tous les tenants et les aboutissants de notre monde. Plus rien n'est sûr, plus rien n'est réel, on peut tout remettre en cause. Et à partir du moment où on remet absolument tout en cause, Égalité et Réconciliation, Alain Soral, peuvent leur proposer un autre logiciel de lecture qui est un logiciel de lecture d'extrême droite, puisque les logiciels de lecture habituels du monde sont déjà considérés comme non valables. Donc celui-là plutôt qu'un autre, pourquoi pas. Et donc c'est un public qu'il cible volontairement. C'est une démarche qui est pensée et construite d'aller draguer les conspirationnistes pour leur mettre dans le crâne une idéologie d'extrême droite.
Quoi ? Tu veux m'aider ?
Sans aucun doute. Entre autres, faire en sorte que jamais, jamais tu ne quittes la jungle.
Et de quelle façon ?
Oh, j'ai quelques moyens subtils en réserve. Mais pour cela, il faut avoir confiance.
Je n'ai plus confiance en personne.
Oh, je ne te le reproche pas. Mais moi, je ne suis pas ainsi que certains de tes prétendus amis. Tu peux avoir confiance en moi.
Alors Soral a lu les penseurs anti-juifs du 19e et du 20e siècle. Et ces penseurs-là, déjà, attribuaient aux juifs de nombreux pouvoirs, la volonté de dominer le monde, et c'était déjà des conspirationnistes. Et il n'hésite pas à les citer et à les republier sur sa maison d'édition, puisqu'il est à la tête d'une maison d'édition qui s'appelle Contre-Culture. Et il publie ces auteurs-là, il les cite. Après, il s'associe aussi à des conspirationnistes contemporains. Alain Soral est un proche de Thierry Messant, qui remet en cause la théorie officielle du 11 septembre. Voilà, il s'inscrit dans une généalogie de conspirationnistes qui se citent mutuellement et qui permettent de construire globalement toute sa pensée.
Aie confiance, oui, crois en moi.
Lorsque vous croyez à une théorie du complot, vous avez plus de chances de croire à une deuxième théorie du complot. C'est-à-dire qu'il y a quand même une vision du monde derrière, il y a une mentalité complotiste qui fait que vous savez comment ça commence, vous ne savez pas comment ça finit. Si vous lisez un petit peu le manifeste d'Anders Breivik, l'auteur de ce double attentat terroriste en Norvège. Donc, Anders Breivik écrit, par exemple, qu'il en veut à ce qu'il appelle le marxisme culturel, qui facilite l'islamisation de l'Europe chrétienne et blanche, que, en gros, les juifs sont pas, comment dire, extérieurs à tout ça, quoi. C'est-à-dire qu'on retombe aussi sur ces figures du complot juif chez Anders Breivik, qui, par ailleurs, explique dans le même texte que, pour lui, Israël, c'est le bastion avancé de l'Occident chrétien ou judéo-chrétien contre l'islam, l'islamisme, il mélange tout ça, et que donc à ce titre-là, Israël mérite d'être défendu. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est complètement... tout est dans tout, quoi. Voilà. On a un jeu de poupées russes, un peu. On peut, soutenant une théorie du complot, soutenir des arguments qui s'excluent mutuellement, contradictoires entre eux. Et ça, c'est fascinant à observer, puisque on va vous dire, premier argument, bah regardez, on parlait tout à l'heure de James Foley, par exemple, le journaliste qui a été décapité, je crois, en août 2014, par Daesh. On vous dit, regardez, il n'était pas journaliste, en fait, c'était un agent, etc. Après, on vous dit, ok, il était journaliste, mais en fait, il joue les comédies, il n'est pas mort. Après, on vous dit, oui, mais il est mort avant. En fait, tout ça est une mise en scène, c'est pas lui. Celui qu'on voit sur les images, c'est pas James Foley. Vous voyez ? Donc on vous donne des arguments comme ça, qui sont contradictoires entre eux, il n'y a aucune cohérence. Mais en fait, et ça aussi, la psychosociologie l'a mis en lumière, l'important, c'est pas la cohérence, l'important, c'est la croyance qu'on nous ment. La croyance qu'il y a un mensonge, qu'il y a un complot. C'est ça qui est premier. Voilà.
Yeah.
L'Atelier des médias, une web émission participative pour la communauté des nouveaux médias.
Atelier des médias, nous explorons cette semaine le phénomène du complotisme. Nous sommes maintenant face à un dilemme journalistique. Peut-on parler de conspirationnisme sans donner la parole à ceux qui véhiculent les théories du complot? Peut-on, à l'inverse, donner la parole à des complotistes sans les légitimer? Nous avons beaucoup réfléchi à cette question à l'atelier et il nous a semblé logique d'approcher des personnes perçues comme complotistes. Nous avons contacté notamment l'équipe d'égalité et réconciliation, l'association d'Alain Soral, sans réponse positive.
Nous avons également été refoulés par des personnalités très présentes sur les réseaux sociaux, notamment des youtubeurs.
Et c'est alors que je me suis souvenu d'avoir été approché par un jeune homme il y a quelques mois qui s'est présenté comme un des responsables du site Reopen 9-11, en français Rouvrir le 11 septembre. J'ai repris contact avec lui, il m'a expliqué que si je souhaitais parler à des conspirationnistes, je ferais mieux de contacter des proches d'Alain Soral. Pourtant, Reopen est perçu par beaucoup comme un site conspirationniste, notamment par Conspiracy Watch de Rudi Reichstadt. Mon contact à Reopen a donc accepté de réagir à cette classification, à ce soupçon de complotisme qui les poursuit en gardant l'anonymat.
Donc Reopen 911, c'est une association d'information sur les attentats du 11 septembre. C'est un peu comme pour l'assassinat de Kennedy, ou pour l'attentat de Karachi, ou pour d'autres affaires de ce type. On s'est rendu compte qu'il y avait des zones d'ombre importantes et qui justifiaient d'étudier plus en avant cette affaire. Et en fait, on estime qu'il faudrait faire à terme une enquête approfondie sur les attentats du 11 septembre. Sur le 11 septembre, il y a ce qu'on appelle la thèse officielle, c'est-à-dire les explications données par l'administration américaine. Et ces explications ne nous ont pas convaincus, tout simplement parce qu'elles n'ont pas été démontrées. Que ce soit des aveux obtenus sous la torture ou que ce soit un passeport retrouvé un peu miraculeusement au pied des tours, on estime que ce ne sont pas des preuves suffisamment solides pour démontrer la thèse officielle. Cette thèse n'ayant pas été démontrée, on estime utile, nécessaire et indispensable qu'il soit procédé à une enquête approfondie afin qu'on sache ce qui s'est passé le 11 septembre.
Reopen 911 a été présenté par plusieurs médias et aussi par le site Conspiracy Watch, bien entendu, comme étant un site complotiste ou conspirationniste. Vous pensez quoi de ces adjectifs ?
C'est l'argument habituel. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a de la rage, et quand on veut discréditer celui qui se pose des questions, on le traite de complotiste. Ça ne veut bien évidemment pas dire qu'il n'existe pas des gens obsédés, paranoïaques, qui voient des mensonges sur chaque événement. Mais il faut savoir dissocier complotisme du scepticisme. Et comment le faire ? Eh bien, il faut étudier chaque sujet, étudier les zones d'ombre et voir si elles sont importantes ou pas, s'il est justifié ou non de se poser des questions. On a remarqué que ceux qui défendent la thèse officielle ne vont pas dire qu'ils défendent la thèse officielle, ils disent qu'ils luttent contre des théories du complot sur le 11 septembre. Et en fait, en disant ça, ils reconnaissent qu'eux-mêmes, que leur thèse, ils ne sont pas capables de la démontrer. D'ailleurs, quand on leur pose la question, ils sont incapables d'expliquer pourquoi ils croient à la thèse officielle, à part d'expliquer qu'elle est répétée en boucle dans tous les médias depuis 14 ans, donc c'est que ça doit être la bonne. Mais quand on leur demande des preuves, ils ne sont pas capables d'en donner. Et en fait, c'est une façon de demander aux sceptiques de démontrer que la thèse qu'ils ne défendent pas serait bonne, ce qui n'a aucun sens, puisque n'ayant aucune thèse, on ne peut pas avoir de preuves pour démontrer la thèse qu'on n'a pas.
Donc il semblerait que vous soyez plutôt du genre à aller vers les médias plutôt qu'attendre que les médias viennent vers vous. Pourquoi ?
Parce qu'on aimerait que les médias donnent davantage la parole à des sceptiques. On a un peu l'impression que la parole est souvent monopolisée par des personnes qui défendent la thèse officielle, sans jamais la démontrer, mais plutôt en expliquant que ceux qui ont des doutes ne sont pas rationnels. Donc on est bien évidemment demandeurs, on peut proposer des experts de différents domaines qui seraient ravis de pouvoir s'exprimer, et c'est l'objet de l'association de faire en sorte de médiatiser ce débat, et bien évidemment que ça passe par des grands médias, comme c'est déjà arrivé par le passé, et comme ça va continue à se passer, si possible, de plus en plus souvent.
Quelle est la frontière entre le scepticisme et le complotisme ? Selon quels critères peut-on ranger un groupe qui doute de versions officielles dans un camp ou dans un autre ? Je ne sais que penser de Reopen 911. J'ai tendance à faire confiance aux spécialistes qui les classent parmi les conspirationnistes. Toutefois, leur ouverture, qui les distingue des autres groupes, montre en tout cas qu'il existe des degrés dans le doute généralisé. Ceux qui, comme Reopen, font preuve de transparence, d'ouverture d'esprit et de volonté de dialogue sont des interlocuteurs qu'il serait absurde de rejeter. Ce qui est certain, c'est que la complosphère et les sceptiques ne font pas ou plus confiance aux médias traditionnels. Une défiance entretenue par le caractère trop souvent complaisant des organes de presse. On se fait trop volontiers le relais de campagnes de communication politique ou d'entreprise. On n'enquête pas suffisamment par manque de moyens ou d'ambition. C'est pour combler ce vide, perçu ou réel, qu'est apparue progressivement une nébuleuse de sites visant, selon Mathieu Mollard de Street Press, à informer les internautes autrement.
Il y a un certain nombre de médias sur Internet qui revendiquent faire de la réinformation. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes, de citoyens, qui ne croient plus dans le système médiatique actuel, qui pensent que les médias mentent, désinforment, souvent volontairement. Donc, ils ne font plus confiance aux médias traditionnels que sont RFI, Le Monde ou Street Press, et ils préfèrent s'informer sur des médias alternatifs dits de réinformation, qui eux revendiquent de dire la vérité. D'ailleurs, on voit souvent sur ces médias-là mettre en avant une neutralité, une objectivité des médias. Dans les faits, il n'y a absolument pas de neutralité ou d'objectivité sur les médias de réinformation, pas plus que sur les médias généraux. Un média a un prisme de lecture du monde. Le prisme de lecture des médias de réinformation est souvent un prisme de lecture d'extrême droite.
Un exemple peut-être de ce genre de site ?
Il y a par exemple dans la galaxie soralienne, c'est-à-dire dans le mouvement des gens qui sont proches idéologiquement d'Alain Soral, eux-mêmes s'appellent les dissidents. Et dans cette dissidence, il y a un certain nombre de médias, comme le Cercle des Volontaires, Meta TV, voilà, qui sont des médias qui sont présents sur Internet, qui font des vidéos. Alors ça peut être des reportages, mais ça peut aussi être des émissions en plateau. Meta TV, qui est tenu par un ancien rappeur qui s'appelle Tepa, il est assis sur un canapé, il fait des longues interviews de personnes qui remettent en cause la vision officielle du monde. Il est intéressant de remarquer que nombre de ces personnes-là sont issues de l'extrême droite. Pas toutes, parce que comme ils revendiquent de s'ouvrir à un public large, de temps en temps, ils font venir des personnalités de gauche. Mais c'est souvent une forme de caution que de dire, voilà, regardez, on invite des gens de gauche, on invite des gens venus de tout horizon, mais en réalité, 80 ou 90% de leurs invités sont issus des différents courants d'extrême droite.
Devenir son propre média pour marquer sa différence vis-à-vis des médias dits classiques, c'est la logique des conspirationnistes. Face à eux, des gens comme Rudi Reichstadt se servent aussi des outils du web pour déconstruire ce qu'ils considèrent comme des dérives complotistes.
Alors revenons à Conspiracy Watch. Quel genre d'informations ou de contenu on retrouve sur ce site ?
Bien, à la fois une veille médiatique, alors à la fois de la complosphère et des médias traditionnels, une veille qui essaie de documenter le phénomène conspirationniste, et puis des analyses, alors à la fois des textes empruntés au monde académique sur le phénomène complotiste, ses ressorts politiques, idéologiques, sociologiques, psychologiques, tout ça est très intéressant de toute façon, mais aussi sur la mouvance qui alimente ces contenus-là.
Et est-ce que sur Conspiracy Watch, vous faites également un travail de ce qu'on appelle le hoax busting ? C'est des sites qui vont disséquer, par exemple, une à une les théories du complot pour ensuite les démonter, les déconstruire et les invalider. Est-ce que c'est ce que vous faites ?
Alors c'est également ce que j'essaie de faire, je l'ai fait à de nombreuses reprises, c'est ce qu'on peut appeler aussi du debunking en fait. Simplement c'est la partie la plus chronophage du travail, parce qu'effectivement on ne démonte pas une théorie du complot par-dessus la jambe. Il faut être absolument rigoureux lorsqu'on apporte des faits, et lorsqu'on vérifie, lorsqu'on recoupe les faits. Donc je fais, oui, sur des sujets qui me paraissent importants, sur les sujets sur lesquels j'arrive à reconstituer une information, une connaissance, mais c'est effectivement le travail le plus compliqué, le plus chronophage.
Quel rôle devraient jouer les médias, selon vous, dans la lutte contre le complotisme ?
Les médias, en tout cas la presse, voilà, on va dire les médias professionnels d'information, ils le font en partie d'ailleurs, de démonter parfois ces contenus-là, de les critiquer. Je crois qu'ils doivent avoir encore plus conscience de l'existence de ce phénomène-là, s'en prémunir davantage, être plus prudent sur la manière dont ils choisissent leurs mots, la manière dont ils choisissent leurs titres également, être moins peut-être soumis à la course permanente au scoop et au sensationnel. Mais ça, c'est malheureusement un vœu pieux dans l'économie médiatique dans laquelle on vit. Mais je crois qu'il y a une autre chose à prendre en compte. Je crois qu'il faut prendre au sérieux ces choses-là, ne pas minimiser le problème.
Ne pas l'ignorer.
Y répondre de manière rationnelle, en faisant des enquêtes, en faisant un vrai travail de journaliste, pas se contenter de reprendre des dépêches AFP et de remettre tout ça à la sauce. Il y a des questions légitimes qui se posent, évidemment, il faut y répondre. Mais voilà, donc il y a un travail d'enquête, d'investigation à faire.
Dans ce combat contre le faux sur Internet, la responsabilité des journalistes m'a semblé d'autant plus importante que ces derniers doivent, d'une part, invalider les théories conspirationnistes et, d'autre part, enquêter pour mettre en lumière les vrais scandales et dysfonctionnements. Je suis donc allée au siège du journal Le Monde pour rencontrer Yves Eudes. Ce grand reporter, spécialiste des cybercultures, travaille pour le grand quotidien français depuis 12 ans. C'est lui qui, au sein du Monde, avait aidé le site lanceur d'alerte Wikileaks à publier des milliers de documents confidentiels prouvant des bavures quotidiennes commises par l'armée américaine pendant la guerre en Irak. Le journaliste du Monde a également lancé en février 2015 un Wikileaks francophone, source sûre, une plateforme qui a permis au journal de dénoncer certaines pratiques illégales, mais qui a aussi attiré un certain nombre de conspirationnistes. Je suis allée voir Yves Eudes car je voulais savoir quel regard portent les professionnels de l'information sur les complotistes.
Le complotisme, c'est d'abord et avant tout le fruit de l'ignorance. C'est des gens qui connaissent mal le fonctionnement des institutions, qui connaissent mal l'économie, qui n'ont pas une vraie culture, ni sociologique, ni historique. Et donc, ça leur est beaucoup plus facile, d'un seul coup, de croire à des théories simplificatrices qui ne nécessitent pas, justement, tout un bagage culturel et qui sont séduisantes parce qu'elles sont globalisantes. Et c'est une comparaison qui va peut-être vous sembler incongrue, mais pour moi, ça a un sens. Des gens qui disent, par exemple, toute la vérité est contenue dans un seul livre, dans la Bible, par exemple. C'est cette envie de simplifier les choses qui est très liée aux théories du complot. Comme ça, on a les réponses à tout dans sa poche. On n'a pas besoin de passer sa vie à apprendre des choses complexes, à faire des efforts intellectuels, à trouver une multiplicité de sources pour agrandir sa culture. On a une explication qui sert à tout. Nous, notre métier, c'est justement d'essayer d'obliger les gens qui sont puissants à un peu plus de transparence. Dénoncer le complotisme, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de complot sur la Terre. Depuis toujours, le pouvoir repose en partie sur la rétention d'informations. Les gens qui détiennent le pouvoir sur autrui, que ce soit le pouvoir économique ou politique ou militaire, une partie de leur pouvoir vient du fait qu'eux savent des choses que leurs subordonnés, leurs subalternes ignorent. Et plus un régime est tyrannique, plus le secret est important pour son fonctionnement et même pour sa survie. Et inversement, plus un régime est démocratique, plus il acceptera la transparence, avec toujours des exceptions, des conditions, etc. Donc le travail du journaliste depuis toujours, c'est d'essayer de pousser les gens qui possèdent la puissance économique ou la puissance politique à un peu plus de transparence. Et des fois, ça se fait de façon consensuelle et des fois, ça se fait de façon conflictuelle. Donc, à la limite, les gens qui s'imaginent que la Terre est gouvernée par quatre personnes cachées dans un château, enfin, fond de forêt, encore une fois, la frontière est difficile à passer. C'est vrai aussi qu'il y a des tas de médias dans le monde qui sont au service d'un État, quand c'est un État qui est trop fort, ou des médias qui sont au service d'une puissance économique, et des journalistes qui sont très complaisants vis-à-vis du pouvoir, ou complaisants vis-à-vis de leur patron, etc.
Globalement, le conspirationnisme dans son ensemble est quelque chose d'inquiétant.
Mathieu Mollard, Street Press.
Parce que, à partir du moment où on remet en cause des vérités scientifiques, prouvées, démontrées, des vérités historiques, prouver, démontrer. Je ne dis absolument pas que l'histoire ne doit jamais être mise en question. Je dis absolument pas qu'il ne faut pas enquêter. On nous cache des choses dans cette société. C'est une évidence. C'est notre travail à nous, journalistes, de les mettre en lumière. Mais quand on met en lumière quelque chose, on apporte des preuves vérifiées, sourcées. Un conspirationniste, il pointe ce qu'il considère comme étant une zone d'ombre, il apporte une explication, mais sans preuve vérifiée. Et le fait d'ouvrir la porte au conspirationnisme, ça laisse un terrain en friche sur lesquels peuvent germer un certain nombre d'idées dangereuses. Le conspirationnisme en soi, tout seul, pris isolément, n'est pas spécialement dangereux. Mais il est dangereux quand la conclusion qu'en tirent les gens, c'est qu'il faut arrêter de se soigner parce que l'industrie pharmaceutique nous manipule et que les médicaments servent à contrôler les foules. Les théories conspirationnistes créent un terreau favorable à un certain nombre de postures qui, elles, sont dangereuses. Dangereuses.
En tentant de comprendre le fonctionnement de la complosphère, je me suis rendu compte que l'internet des complots est un chemin semé d'embûches et de pièges. Naturellement, je me suis surprise à douter de certitudes ou croire momentanément en des informations non prouvées. Je me suis également perdue dans un océan d'informations aussi vraisemblables que raisonnées et que je ne pouvais pas du tout vérifier. Ça a été le cas par exemple lorsque j'ai commencé à visionner des documentaires sur les attentats de New York. Je me suis rendu compte finalement que tant que certains domaines des affaires publiques seront régis par la culture du secret, les théories du complot existeront toujours. Par culture du secret, j'entends par exemple la masse de données qui n'est pas dévoilée par nos institutions et qui constitue des témoignages de leur fonctionnement interne. Face à cela, tout ce que nous pouvons faire, c'est œuvrer, militer pour une démocratie plus ouverte et plus transparente. Et je salue en ce sens le travail d'associations françaises comme Démocratie Ouverte ou Regard Citoyen. Leur travail consiste à s'approprier les outils numériques pour donner aux citoyens internautes un droit de regard sur la vie politique. Merci à toutes les personnes qui ont accepté de témoigner à mon micro. Je rappelle le titre du livre de Mathieu Mollard et Robin D'Angelo, Le système Soral, enquête sur un facho business, publié aux éditions Calman Levy. Si vous souhaitez porter la réflexion plus loin, je vous conseille La complosphère, l'esprit conspirationniste à l'ère des réseaux, un ouvrage publié par Raphaël Josset aux éditions Le Mieux. Un autre livre très récent de juillet 2015, c'est celui de Mathieu Foulot. Il s'appelle Le complot Charlie et il est publié aux éditions Atlante. Et si vous êtes plutôt roman, foncez lire Le cimetière de Prague de l'italien Umberto Eco.
C'était l'émission 402 de l'Atelier des médias, signée Simon Decreuse, Manon Mella, Mélissa Barra, Dilette Sadaoui, Raphaël Constant et Ziad Malouf. Salut à toutes et à tous, à la semaine prochaine.